Vous écoutez France Culture.
Le journal présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Les forces de l'OTAN tenues à distance des urnes le week-end prochain en Afghanistan. Dans quel contexte se prépare le scrutin législatif? Sonia Ghezali est à Kaboul. La disparition à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. L'enquête piétine. Les autorités turques veulent maintenant perquisitionner le consulat d'Arabie Saoudite. Également au sommaire de cette édition, en France, soupçon de fraude lors de l'élection à la présidence des jeunes républicains et la face cachée du globe qui nous emmène entre autres en Gambie. Dans 6 jours maintenant, les Afghans seront invités à aller voter pour renouveler les 249 sièges du Parlement, des élections législatives qui ont déjà coûté la vie à des centaines de personnes, ainsi qu'à 9 candidats hier dans le nord du pays, 22 morts lors d'un rassemblement politique. Ces élections, on le sait, sont combattues par des effectifs de l'organisation État islamique comme par des forces talibanes qui ne prêtent aucune légitimité au gouvernement central. Sonia Ghezali a assisté ce matin même à Kaboul à la présentation du dispositif de sécurité envisagé par les autorités.
Plus de 50 000 forces de sécurité seront déployées sur tout le territoire pour sécuriser près de 5 000 bureaux de vote qui ouvriront leurs portes samedi. Le plan de sécurité a été élaboré par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense afghan. Policiers et militaires assureront la sécurité ensemble. Des unités statiques seront présentes dans les bureaux de vote. Un deuxième cercle de protection sera installé à 3000 mètres des centres de vote et des patrouilles mobiles de l'armée et de la police circuleront dans les quartiers dans lesquels se trouvent ces centres de vote. C'est la première fois que la sécurité du processus électoral des bureaux de vote est entièrement assuré par les forces de sécurité afghanes. Les forces de l'OTAN resteront en retrait et n'interviendront qu'en soutien lors du transfert des urnes dans le centre de la commission électorale indépendante à Kaboul. C'est sous tension que se tiendra ce scrutin. Les talibans ont prévenu qu'ils s'attaqueraient aux forces de sécurité, considérant le processus électoral illégitime. Ils considèrent d'ailleurs illégitime le gouvernement afghan. Et cette position ne remet pourtant pas en cause les tractations pour les négociations de paix. Preuve en est de cette rencontre à Doha avant-hier entre des représentants des talibans et à l'émissaire américain pour la paix en Afghanistan, Zalmay Khalilzad. Première rencontre officielle, même s'il s'agit en fait de la deuxième fois qu'ils se rencontrent. Les talibans restent sur leur ligne, à savoir qu'ils n'envisagent aucune discussion sans le retrait des forces étrangères. Une condition sine qua non, mais la porte semble ouverte aux tractations.
La disparition plus que suspecte du journaliste saoudien Jamal Khashoggi fait plonger de plus de 7% la bourse de Riyad. Les fondamentaux de l'économie saoudienne ne sont pas touchés. Toutefois, impact significatif à 9 jours de l'ouverture d'un sommet économique baptisé le Davos du désert. Ses organisateurs accumulent les désistements. Quant à l'enquête sur la disparition de Jamal Khashoggi depuis son entrée dans le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul le 2 octobre dernier, l'enquête est au point mort. Hier, le ministre turc des Affaires étrangères a demandé aux autorités saoudiennes d'autoriser les enquêteurs à perquisitionner le consulat, sans succès pour l'instant. À Istanbul, les précisions d'Anon Lauer.
Mardi dernier, les enquêteurs turcs semblaient prêts à entrer dans le consulat d'Arabie Saoudite. Ankara avait demandé l'autorisation à Riyad, qui avait accepté quasi immédiatement. Depuis, plus rien. Turcs et Saoudiens ne sont apparemment pas d'accord sur l'ampleur de la perquisition. Selon plusieurs médias turcs, le procureur général d'Istanbul, chargé de l'enquête, voudrait une fouille minutieuse du bâtiment intérieur et extérieur avec des équipes de police scientifiques. En clair, les Turcs voudraient traiter les lieux comme une scène de crime potentiel. Les autorités saoudiennes refusent, elles ne consentiraient qu'à une fouille visuelle de leur enceinte diplomatique. Des négociations seraient en cours pour tenter de trouver un accord. En attendant, Ankara fait monter la pression sur Riyad, qui n'a pas changé sa version depuis le début de l'affaire. Selon le régime saoudien, Jamal Khashoggi serait ressorti sain et sauf de son consulat d'Istanbul. Sous couvert d'anonymat, des officiels turcs affirment pourtant disposer d'enregistrements prouvant que le journaliste aurait été torturé et tué à l'intérieur du bâtiment. Des médias turcs avancent que les enquêteurs auraient eu accès à des fichiers enregistrés par la montre connectée de Jamal Khashoggi. D'autres soutiennent que la Turquie disposait de micros dans l'enceinte du consulat. S'il ne s'agit pour l'heure que de spéculations, ces éléments indiquent que la Turquie a l'intention de boucler rapidement l'enquête. avec ou sans la coopération de l'Arabie Saoudite.
Les Luxembourgeois sont appelés aux urnes ce dimanche, des législatives qui pourraient voir le retour au pouvoir du Parti social chrétien et entraîner le départ du Premier ministre libéral Xavier Bettel, tombeur de Jean-Claude Juncker en 2013. Le Luxembourg, Johanna Hochstein, veut se refaire une réputation.
Les derniers sondages placent l'opposition conservatrice, le Parti social chrétien, en tête des intentions de vote, avec 35% d'opinion favorable contre 15% pour le Parti libéral du Premier ministre actuel. La coalition au pouvoir, composée des libéraux, des socialistes et des écologistes, défend son bilan particulièrement fourni en réformes sociétales, mais pas que. Xavier Bettel, Premier ministre luxembourgeois, au micro de Quentin Dickinson.
Le pays aujourd'hui n'est plus le même qu'il y a 5 ans. Quand je parle au niveau économie, quand je parle au niveau modernisation du pays, quand je parle infrastructure, quand je parle même image du Luxembourg à l'étranger, j'ai pas besoin de rappeler les épisodes dans ma législature qui n'ont pas été les plus faciles, comme LuxLeaks. Le Luxembourg n'est plus sur liste grise ou liste noire, on est un pays compétitif, attractif, avec une croissance qui marche, avec un chômage qui baisse et des bonnes décisions. C'est pas à moi de le décider, c'est à l'électeur ce dimanche.
256 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche, soit environ 40% de l'ensemble de la population. En fait, une personne sur deux qui vit au Grand-Duché n'est pas de nationalité luxembourgeoise et n'a donc pas le droit de vote. Du coup, la campagne a pris un tour identitaire marqué. L'une des thématiques qui a dominé les débats ces dernières semaines était par exemple la défense de la langue luxembourgeoise.
Il est 12h36, vous écoutez le journal de France Culture. En plein réchauffement diplomatique entre la France et le Rwanda, le parquet de Paris requiert un non-lieu dans l'enquête sur l'attentat contre l'ex-président Hutu, Juvenal Habyarimana. La justice abandonne par la même ses poursuites à l'encontre de 7 proches de l'actuel président Tutsi, Paul Kagame. Le génocide a coûté la vie à 800 000 Tutsi il y a 25 ans. L'instruction du dossier peut maintenant commencer. Quelle lecture faire de cette décision de justice? Commentaire de Patrick de Saint-Exupéry, reporter au Rwanda pendant les faits et auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide.
En réalité, depuis 2016, l'hypothèse d'un attentat commis par la rébellion a grandement faibli puisqu'il y a eu un déplacement sur les lieux au Rwanda par le juge d'instruction Marc Trévidic et Nathalie Pou. Et ce déplacement au Rwanda avait conclu que le tir de missile venait d'un camp militaire tenu par les forces gouvernementales. Donc cette hypothèse-là était déjà très affaiblie. Le deuxième point, c'est que l'on constate aujourd'hui effectivement qu'il y a une volonté d'apaisement d'un point de vue politique sur l'ensemble du dossier rwandais, parce que l'instruction sur l'attentat et l'hypothèse d'un attentat commis par le pouvoir actuellement aujourd'hui au Rwanda est abandonnée, mais d'autres instructions sont aussi abandonnées. Bicécéro, l'instruction sur Bicécéro qui met en cause les forces militaires françaises, l'intervention des forces militaires françaises pendant l'opération turquoise, est aussi en voie d'achèvement. Donc ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, c'est peut-être une volonté de nettoyer le dossier pour reconstruire d'autres relations. C'est une hypothèse.
Ce sont là des propos en tout cas recueillis par Matteo Maestrachi. La jeune garde du leader de Les Républicains, Laurent Wauquiez, a un meneur. Elle en était privée depuis juillet 2017. Il s'appelle Oran Réagnan, élu hier soir dans de troubles circonstances. Son adversaire, Charles-Henri Aloncle, dénonce une élection truquée. Bonjour, Julie Paco.
Bonjour.
Alors, il y aurait eu trucage?
Ne faites pas ce que vos aînés font trop souvent. Vous aurez le temps de vous écharper plus tard. Prévenez mardi Damien Haddad, vice-président des Républicains. Un avertissement qui aurait donc été ignoré par les candidats à la présidence du mouvement de jeunesse, si on en croit l'enregistrement relayé vendredi soir par l'équipe de Charles-Henri Aloncle. On y entend Oran Réagnan, vainqueur de l'élection, échanger avec l'un de ses soutiens sur la façon de capter les codes des adhérents afin de voter en ligne à leur place. Des accusations réfutées par le principal concerné qui évoque des propos isolés et sortis de leur contexte. Alors si cette affaire peut paraître anecdotique, car on parle ici d'un mouvement rassemblant 5000 adhérents, elle traduit la persistance de vieille pratique dans la conquête du pouvoir, explique le professeur d'histoire politique Jean Garrigue.
On se souvient de la prise de pouvoir de Jacques Chirac sur la famille gaulliste dans les années 70. On se souvient de la fameuse lutte présidentielle entre François Fillon et Copé. Enfin bref, c'est quelque chose de récurrent. Ça traduit, en ce qui concerne cette élection, un symptôme de fragilité du leadership de Laurent Wauquiez, parce que justement, il y a un enjeu très très fort à contrôler les fédérations et notamment les fédérations de jeunes, tout simplement parce que Laurent Wauquiez est un leader fragile et qui a besoin de tous les appuis nécessaires.
Et à l'instar de son aîné, la mission aujourd'hui pour Oran Réagnan est donc de gagner en leadership, mais également de redorer l'image du parti auprès des jeunes, un parti auquel ils ont largement tourné le dos lors des dernières élections.
Merci à vous, Julie Paco. Il est 12h40, c'est l'heure de la face cachée du globe. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour Mathieu. La Malaisie va abolir la peine de mort. Kuala Lumpur a annoncé cette décision jeudi. L'amendement supprimant la peine capitale sera soumis demain au Parlement. La dirigeante de l'opposition péruvienne Keiko Fujimori, fille de l'ex-président Alberto Fujimori, a été placée en détention provisoire mercredi pour une durée de 10 jours. Ce placement, lié au scandale de corruption Odebrecht, le géant du BTP brésilien, porterait sur de nouveaux soupçons de financement à hauteur d'1,2 million de dollars. Un prochain départ de Soyouz vers l'ISS est-il possible au printemps ? C'est ce qu'a promis l'agence spatiale russe après l'échec jeudi du lancement de Soyouz et le retour agité sur Terre de ses deux occupants, américains et russes. Les premiers résultats de l'enquête sont attendus pour le 20 octobre. Cap sur la Gambie, un petit pays frontalier du Sénégal, est décidé à tourner la page de la période Yahya Jammeh. L'ancien président gambien avait défrayé la chronique en décembre 2016 lorsqu'il a refusé pendant un mois l'élection d'Adama Barrow. Mais cette crise post-électorale était le dernier acte d'un pouvoir autoritaire qui a duré 22 ans. Claire Bargelès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Banjul où une commission Vérité et Réconciliation sera installée officiellement demain. Comment travaillera-t-elle?
Alors, 11 commissaires ont été sélectionnés et ils prêteront donc serment demain lors de la cérémonie d'inauguration. Puis, selon le secrétaire exécutif de l'institution, les premières audiences publiques devraient avoir lieu assez vite ensuite, d'ici la fin du mois. C'est un délai court, mais qui vise à répondre en fait aux attentes très grandes de la population. Parce que cette commission Vérité, Réconciliation et Réparation, c'est la promesse phare du président Adama Barrow et c'est l'espoir pour les victimes de l'ancien régime de pouvoir s'exprimer sur les 22 années de règne de Yahya Jammeh. La commission aura donc 2 ans pour enquêter, recueillir cette parole, mais aussi créer un dialogue national avec à la clé la rédaction d'un rapport et des recommandations pour éviter qu'un tel régime existe à nouveau un jour. L'institution aura aussi la charge de répartir des réparations financières mais aussi symboliques et elle pourra recommander des poursuites judiciaires contre certains responsables ou bien des amnisties sous certaines conditions pour ceux qui acceptent de témoigner.
Beaucoup de Gambiens aimerait pouvoir demander des comptes à Yahya Jammeh qui vit en exil. Peut-on revenir sur ce qu'ont été ses 22 ans de pouvoir?
Le processus se déroulera en effet sans lui, puisque Yahya Jammeh se trouve désormais en Guinée équatoriale. Cet ancien président était une personnalité pour le moins imprévisible. Il pouvait se décréter guérisseur traditionnel et forcer des malades du sida à boire ses remèdes à base de plantes, ou encore transformer sans prévenir son pays en république islamique. Sous son règne, pas de liberté de la presse et de nombreux cas de torture en détention ou de disparition forcée, et l'ancien leader pouvait compter sur le soutien de l'armée ainsi que sur son escadron de la mort, un groupe appelé les Junglers, et soupçonné de nombreuses exactions. Enfin, le nouveau gouvernement l'accuse d'avoir pioché régulièrement dans les caisses de l'État et a mis en place une commission d'enquête pour examiner ses affaires financières. Mais celui qui déclarait pouvoir rester 1 milliard d'années au pouvoir, si Dieu le veut, a finalement vu arriver sa fin plus vite que prévu. Et les langues peuvent aujourd'hui se délier pour faire le bilan de son régime et par la suite peut-être pouvoir tourner la page.
Merci à vous Claire Bargelès. Si le Maroc a mené ces dernières années une politique d'intégration et de régularisation des migrants subsahariens, un phénomène inverse est dénoncé par certaines ONG locales comme le GADEM. Cette association s'inquiète de la multiplication des arrestations et éloignements de migrants. Il y en aurait eu 7000 entre juillet et septembre. Mehdi Alioua, sociologue et membre fondateur du groupe GADEM.
Nous sommes à plus de 7000 personnes raflées dans le nord du Maroc. Le mot rafle, nous le maintenons. Non, on a cassé des portes pour rentrer chez les gens dans les quartiers où on savait où habitaient des populations. On les a éloignés de la frontière nord européenne. Le Maroc pense qu'en les éloignant, cela changera les choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a effectivement des gens qui tentent de passer de force les frontières. Et oui, il y a un problème de sécurité à ces frontières. Il faudrait trouver une solution ensemble pour la gérer. Mais non, toutes les personnes noires de peau au Maroc ne sont pas potentiellement des migrants tente ce passage-là. Donc, on est vraiment dans un retour en arrière. Ce qui est préoccupant, tout un ensemble de personnes originaires des pays d'Afrique subsaharienne, même installées régulièrement au Maroc, se demande si un jour on ne viendra pas chez elle pour les enchasser. Donc on voudrait savoir qu'est-ce que vraiment cherche le Maroc en faisant ça. On sait qu'il y a des pressions de l'Union européenne et de certains pays membres, en particulier comme l'Espagne, qui sont de plus en plus fortes. Il y a aussi un chantage au développement, beaucoup d'argent sur la table, mais le Maroc ne peut pas mener en même temps la répression avec une dimension raciste et en même temps l'intégration et une politique africaine. Il faudra qu'il choisisse.
Comment départager deux candidats qui ont fait le même score lors d'un scrutin municipal? Eh bien, dans un petit village isolé des Andes, au Pérou, cela s'est joué à pile ou face. La pièce de monnaie a été lancée par le commissaire de police locale pour décider qui des deux candidats, deux cousins en l'occurrence, sera le maire de la ville. À dimanche prochain.
À dimanche prochain. Merci à vous, Nabil Hamel. Dégradation vue sur le plan météo, le Tarn, l'Aude, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales sont placés en vigilance orange pour pluie, inondation et orage la nuit prochaine.